EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.
Je suis Juliette et je suis avec Valou. Bonjour Valou.
Bonjour Juliette.
On est toutes les deux de l'association CEP, comme les champignons. CEP, c'est une association d'éducation populaire à Valence qui propose des ateliers de quelques heures, des stages de plusieurs jours, des événements pour se rencontrer et de l'accompagnement personnalisé pour les initiatives d'EducPop sur le territoire. Comme le rhizome des champignons qui nourrit la forêt, CEP, c'est un peu comme un terreau dans lequel on a envie que les gens viennent puiser pour devenir des agitateurs et agitatrices sociales. On y découvre des enjeux politiques et des thématiques de société, on s'y familiarise avec des outils et des méthodes d'éducation populaire, on rencontre d'autres personnes curieuses et engagées, et on y crée des occasions de passer à l'action et de faire ensemble.
Dans cette perspective, nous serons avec vous une fois par mois pendant 30 minutes pour vous partager notre passion pour l'éducation populaire. Nous vous proposons un tour d'horizon de ce qui constitue, selon nous, l'éducation populaire et découvrons des sujets, outils et invités au fil des émissions. Bienvenue dans EducPop, l'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Et aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est l'éducation populaire animée, pourquoi faire ? Et c'est vrai ça, pourquoi ? C'est quoi animer ? Qu'est-ce qu'on fait quand on anime un atelier, un stage ou un outil d'EducPop ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement, mais aussi qu'est-ce qu'on fait philosophiquement ? À quoi ça sert d'animer ? Pourquoi c'est important et intéressant qu'il y ait des animatrices ? Pourquoi ça s'apprend ? Pourquoi c'est pas si facile que ça ? Est-ce qu'on peut dire qu'une animation est une réussite ou un échec ? Et pourquoi ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce que ça permet d'animer ? Et on va commencer par un peu d'étymologie. Ça vient d'où, animer, Valou ?
Eh oui, animer, ça vient du provençal et de l'espagnol animar, de l'italien animare, du latin animare, qui signifie donner la vie. Wow. Ou de l'anima, le souffle, la vie, qui a donné plus loin l'âme.
En toute modestie.
Exactement. Donc ça, c'est l'étymologie de base, mais en figuré, ça veut dire insuffler de la vivacité, du dynamisme ou de la vie quelque part, ou stimuler, inciter à l'action, susciter une réaction émotionnelle forte, un débat animé par exemple. J'avais envie de revenir sur cette étymologie parce que c'est vrai qu'il y a quand même un écho, un petit clin d'œil avec ce qu'on essaye de faire dans l'animation. On essaie de stimuler de la réflexion, des émotions, inciter à l'action. C'est carrément au cœur de notre démarche.
Oui, c'est clair.
Du coup, Juliette, pour toi, c'est quoi animer ? Pourquoi on anime ?
Alors, grosse question, et effectivement, c'est peut-être pas mal de commencer par ça. Pour moi, animer, c'est sortir de l'espace normal. Parce que dans l'espace normal, celui dans lequel on vit tout le reste du temps, il y a des normes qui s'appliquent. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'espace normal, d'ailleurs. C'est l'espace où il y a les normes, et les normes, la plupart du temps, c'est les normes dominantes. Donc, c'est-à-dire le sexisme, le classisme, l'hétérosexisme, la LGBT-phobie, etc. Toutes les normes qu'on connaît et les ismes qu'on n'aime pas. Ce qui fait que si on ne met rien en place, c'est ces normes-là en fait, qui vont agir sur nous, qui vont nous influencer, qui vont faire qu'on fait ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on appelle la spontanéité. En fait. Si on laisse la spontanéité agir, en fait, c'est les normes dominantes. Et du coup, l'intérêt et l'importance d'animer, de faire une animation, c'est d'essayer de contrer, à minima d'expliciter, de verbaliser ces normes dominantes, et avec, pourquoi pas avec des outils ou des procédés, de les contrer pour faire en sorte que tous les gens présents dans l'animation ils puissent participer de façon égale ou au moins équitable, pour essayer de faire en sorte que ce soit un espace facilitant pour tout le monde, quoi. D'où le fait que animer, c'est mettre en place des outils ou des éléments de règles, de cadres, de répartition de la parole, pour essayer de contrer ces normes dominantes, pour faire en sorte que tout le monde participe autant qu'il le peut. Pour prendre des exemples d'outils qui peuvent permettre de contrer ou au moins de visibiliser les normes dominantes, ça va être des outils de répartition de la parole, par exemple. Un bâton de parole qui circule entre les participants, participantes, pour que tout le monde ait la parole et que ce ne soit pas les normes dominantes qui donnent beaucoup la parole aux hommes cis blancs, par exemple. Ou alors donner en priorité la parole aux personnes minorisées, privilégier le fait de donner la parole à un homme, puis à une femme, puis à un homme, puis à une femme, par exemple, ça existe. Et aussi l'outil de la non-mixité, c'est-à-dire faire des ateliers où il n'y a qu'une partie de la population qui est représentée. C'est aussi un outil qui peut permettre ça, des cercles de parole entre personnes sexisées, entre femmes, ou entre personnes racisées. C'est un outil qui permet de contrer les normes dominantes et l'espace normal.
Ça me fait aussi penser au débat mouvant qui a plein de vertus, mais notamment à partir d'une question qui fait débat, qui fait frotter la vie des gens, on se positionne dans l'espace. Après, on dit pourquoi on s'est positionné là. Et en fait, on n'est pas obligé d'utiliser sa parole, d'expliquer, argumenter son point de vue, mais rien qu'en se positionnant dans l'espace physiquement, on donne son avis. Et donc, ça permet de... C'est une des manières de lisser qui donne son avis, qui en a un. Enfin voilà, on peut voir aussi si une personne a un avis différent alors qu'on ne pensait pas du tout. Enfin voilà, il y a plein d'outils comme ça où il y a un certain nombre de finesses, mais le but étant que il n'y a pas que ceux qui parlent bien et qui ont l'habitude de l'ouvrir qu'on entend quoi.
Ouais, carrément. Et du coup, Valou, à quoi ça sert d'animer ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on anime ?
Eh bien, on cherche, pour moi, c'est un peu, on cherche des moments d'accélérateur, de réflexion, de prise de conscience, de se relier les uns aux autres. C'est, on va brasser ensemble un sujet qui nous tient à cœur, voilà, mais on ne va pas le faire de manière à l'apéro avec les copains. C'est très bien de faire l'apéro avec les copains, mais parfois, justement, parce que c'est toujours les mêmes qu'on entend ou parce qu'il y a des dynamiques de groupe qui sont toujours les mêmes, ben on va pas oser aller parfois aussi loin ou donner son avis aussi franchement. Alors que dans un format un peu plus cadré, ça offre aussi des éléments rassurants, des repères, et on peut faire avancer sa pensée, faire avancer sa réflexion, etc. Voilà. On n'est pas non plus à l'école, donc le but, c'est pas de dire une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là, mais... Et donc, ça, le fait que ce soit cadré, mais sans obligation de résultats et de notes à la fin, ça offre plus de liberté aux humains, à la réflexion et aux émotions d'évoluer, quoi.
Ouais, il y a à la fois le côté exercice où tu peux te prêter au jeu et explorer ta réflexion, aller dans des endroits où tu n'as pas l'habitude d'aller, essayer pour voir, quoi.
Ouais.
Mais sans les enjeux de réussite, d'échec. Qu'il y a derrière, quoi.
Ouais, et toute la pression, ou la pression productive, etc., qu'on subit en permanence dans notre travail, là, c'est un endroit où on peut être juste pour y être et kiffer le sujet et se sentir bouger, quoi.
Mmh. Ouais, carrément.
Et pour toi, c'est quoi la posture d'animation ? C'est un grand mot, parce que c'est un truc assez central dans notre métier, mais en même temps, on prend jamais le temps d'en parler. Donc, on avait envie d'aborder ça. Pour toi, c'est quoi, Juliette ?
Ouais, effectivement, la posture, c'est un des mots favoris des personnes qui font de l'éducation populaire. Moi, je trouve ça hyper difficile à définir, et alors que c'est assez indispensable. Pour moi, la posture, c'est la façon dont on va se comporter et dont on va être avec les personnes qu'on encadre. C'est plein de choses verbales, mais aussi non-verbales, dans notre comportement, dans nos attitudes, dans notre gestuelle, dans nos intentions, dans la clarté avec laquelle on dit ce qu'on va faire. Et c'est vraiment ce qui va faire le plus, je trouve, la différence entre c'est de l'éducation populaire, c'est pas de l'éducation populaire, et t'es un bon animateur, une bonne animatrice ou pas. Pour moi, c'est vraiment, la posture, c'est vraiment primordial.
Okay.
Tu peux avoir des bons outils, et si t'as une mauvaise posture, c'est plus de l'éduc pop.
C'est un moment chiant.
Ouais, ouais, carrément. Ou même carrément de la manipulation, en fait. Mm.
Ouais, carrément, pour moi, dans la posture, il y a aussi le côté être un élément rassurant et de confiance pour les participants. Moi, je leur garantis que je suis vigilante à un certain nombre de choses, que ce soit la dynamique de groupe, les rapports de force, mais aussi quelqu'un qui a décroché ou a besoin d'un espace à lui ou à elle pour s'isoler, pour se sentir mieux. Enfin, c'est qui se sentent justement pas manipulés ou pas obligés. Et que le pilier central qu'est l'animatrice ait une posture en laquelle ils peuvent avoir confiance et qui est cadrante aussi.
Ouais, ça me parle vachement. Moi, je pensais à cette question de confiance, qu'en fait, les gens, ils sont là, ils ont choisi ou pas d'être là d'ailleurs, parce que des fois, il y a des publics captifs, des fois pas. Et il faut un peu, genre, je trouve, prouver qu'ils ont raison de te faire confiance. Et du coup, la posture est une façon de répondre à cette confiance qu'ils te donnent et d'un peu d'expliquer pourquoi tu la mérites et pourquoi ils peuvent continuer de te la donner pour la suite de l'atelier. Et ce qui va se dérouler après, ça dépend vachement de si tu as réussi à justifier et à maintenir la confiance que les gens ils te donnent, quoi. Et je me demande... moi, j'ai la chance de faire surtout des ateliers, des formations où les gens ont choisi de venir. Ils se sont inscrits volontairement. Et toi, Valou, tu fais aussi des formations où les gens sont captifs ou semi-captifs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas toujours complètement choisi d'être là. Je pense aux colonies de vacances pour enfants, par exemple, où c'est les parents qui les inscrivent. Mmh. Parfois avec, j'imagine, l'accord de l'enfant ou son choix, parfois.
Ouais, parfois ils sont chauds et parfois ils sont là parce que les parents, ils travaillent, effectivement.
Et comment ça change dans la posture ou dans l'animation ?
Bah, on le sent dans le fait qu'il y a pas mal de jeunes qui traînent la patte par rapport aux activités qu'on leur propose. Et nous, on aimerait qu'ils soient heureux parce que nous, on a beaucoup travaillé pour leur proposer cette animation. Et ils ne sont pas tout à fait heureux. Et il y a aussi tout ce mouvement dans l'éducation populaire jeunesse, que je trouve hyper importante, hein, mais que les enfants soient de plus en plus impliqués dans le programme d'activités qu'on leur propose, etc. Je trouve ça central et en même temps, il y a une forme d'hypocrisie parce qu'il y en a plein qui n'ont pas choisi d'être là et ils traînent la patte parce que de toute façon, ils sont un peu saoulés de ce contexte-là, de ce cadre-là collectif. Ça ne leur convient pas et on leur demande « tu préfères faire ça ou ça ?» ou « vas-y ». Alors que tu ne fais jamais ça dans ton école, tu ne fais jamais ça dans ta famille, on ne te demande jamais ton avis, mais cet après-midi, mercredi après-midi, c'est toi le roi ou la reine du programme. Comment ça, tu n'as pas d'idée ? Enfin, il y a un côté hyper décalé. En fait, quand tu es captif toute ta vie, c'est hyper dur de connaître les repères de tes propres désirs, tes propres goûts et commencer ton émancipation, quoi. Enfin, ça se décrète pas.
Ouais, de ouf. Ça, c'est un truc que je me suis dit en préparant l'émission. Moi aussi, je mets beaucoup de soin à ma posture, à faire en sorte que les gens, même s'ils ont choisi d'être là, ils puissent se sentir aussi libres que possible. Parce que c'est, on l'a pas dit, mais c'est quand même un élément important de l'animation, c'est d'essayer de faire en sorte que de redonner du pouvoir d'agir aux gens. Ça, c'est pour moi, enfin c'est pour nous un des objectifs de l'éducation populaire. Et du coup, les animations et la façon dont on anime, ça doit refléter ça et porter ça. Et du coup, dans notre posture, on essaye de redonner du pouvoir aux gens. Ça implique des choses hyper simples comme, en fait, si vous avez des besoins de base qui se manifestent, vous ne nous demandez pas, vous allez aux toilettes, vous prenez une pause, vous allez manger, vous allez boire quand vous en avez besoin. Moi, ça passe souvent par le fait de dire, vous n'êtes pas obligé de faire cette animation, c'est vous qui restez capitaine de votre navire, et du coup, si vous ne le sentez pas, si vous en avez marre, etc. Et en même temps, est-ce que c'est pas juste... Moi, des fois, je me demande, est-ce que c'est pas juste une posture verbale de ma part ? Parce que les gens, effectivement, ils sont hyper conditionnés à obéir par l'école et après par le travail et après par plein d'autres éléments de la société. Et du coup, est-ce qu'ils ont vraiment les moyens, en fait, de prendre ce choix, cette liberté qu'on leur offre et d'être autonomes ? Et en même temps, si on propose pas du tout d'espace où ils peuvent le faire, enfin... d'une certaine manière, ils apprendront jamais et que c'est un des enjeux de l'éducation populaire de favoriser ça ou même d'ouvrir un espace pour dire « Ah putain, en fait, je sais pas ce dont j'ai envie quand on me donne le choix, quoi. »
Carrément, et, moi à l'inverse, ça m'est arrivé plusieurs fois que les gens partent en plein atelier. Je pense notamment aux ateliers du Cause Toujours que je fais une fois par mois au Cause Toujours. C'est des ateliers de 2-3 heures, mais on est en ville, c'est aussi plus facile de partir, à côté de chez toi, enfin, ouais, ça, c'est plus l'inverse que je vis. Je suis trop contente que les gens prennent cette liberté-là, et en même temps, je peux pas m'empêcher de dire, oh là là, est-ce que j'ai fait un truc qui lui a déplu. Enfin, je cogite la moitié restante de l'atelier sur pourquoi cette personne est partie, est-ce qu'il y a des signes aussi faibles que j'ai pas vu, etc. C'est un travail sur moi de vraiment dire, ah, en fait, c'est une victoire que cette personne, elle se soit sentie suffisamment libre pour effectivement écouter son besoin, quoi.
Ok, ça veut dire que tu as eu une bonne posture qui a permis qu'elle.
Elle se sente libre. Ou sinon, je l'ai carrément saoulée, mais au moins elle s'est sentie libre et je ne l'ai pas obligée à rester jusqu'à la fin. Et en vrai, dans les deux cas, c'est ça qui compte.
Ouais, ok. Ok, trop intéressant. On va continuer avec la posture, mais avant, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Les Dormantes de Zao de Sagazan.
L'amour qui fait ton. Les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux, l'amour qui nous rendra peureux, même des plus belles histoires à deux, même des plus beaux amours heureux. veux pas rester bloqué dans leur filet, mieux vaut filer dès que t'y es. Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares? Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir. Engage va certainement dévaler. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh oui, l'amour. Ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs, lui qui n'en fait jamais d'ailleurs. Tout se passe tout doucement dans ses murmures, le serpent, et après la colère, il vous jure que ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Oui, ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou, il en est sûr. Ça c'est l'amour, l'amour ça rend fou et j'en deviens sûr. L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Silencieusement pour arriver finalement à, au pire des tableaux, au croupissant, la laissant éternellement belle au bois dormant, la laissant éternellement belle au bois dormant.
Et on est de retour dans l'émission EducPop. L'éducation populaire va-t-elle changer le monde? On était en train de discuter de posture avec Valou. Et on va continuer notamment pour se demander, la posture, en fait, ça s'apprend?
La posture d'animation?
La posture d'animation, pas toutes les postures, tout à fait.
Ça s'apprend, ouais, carrément. Et on avait envie de se redire un peu, nous, où est-ce qu'on a appris ça? Enfin, où est-ce qu'on apprend d'ailleurs toujours ça? Mm-hmm. Et c'est quoi un peu notre parcours? Toi, c'est quoi ton parcours, Juliette, dans le milieu de l'animation?
Alors, que je me souvienne, moi, j'ai appris à animer de façon indirecte lors de mon stage de Master 2. J'étais à Lyon et j'étais en stage dans l'association qui s'appelle Osons Ici et Maintenant, où j'étais chargée de logistique et de programmation pour un événement qui s'appelle la Fabrique à Déclic, qui rassemble 300 jeunes de, je crois, de 15 à 35 ans pour développer leur pouvoir d'agir. Elle s'appelait, enfin, elle nommait pas l'éducation populaire ouvertement comme un de ses objectifs, mais en fait, quand j'y repense, c'était vraiment, ça y ressemblait beaucoup. Et c'était mes premiers pas là-dedans, et je les ai plutôt faits en tant qu'encadrante, du coup, où je me retrouvais des fois avec, à devoir animer des groupes de jeunes, sans avoir mis ce mot-là. Et j'ai vraiment, du coup, appris sur le tas, et aussi en interne dans mon association, où, en fait, pour animer les réunions ou les temps d'équipe, on utilisait plein d'outils d'EducPop. Et ensuite, donc ça c'était mes premiers pas, sans mettre le mot dessus, et ensuite j'ai commencé à profiter, enfin comment dire, à être bénéficiaire on va dire de l'EducPop, dans le sens où je suis allée à des animations animées par d'autres, et notamment à des animations de l'association Lyon à double sens, à Lyon toujours, qui fait des trucs vraiment chouettes, et là j'ai, eux ils nomment explicitement que c'est de l'EducPop. Et même on se questionne beaucoup sur ce que c'est l'EducPop, enfin, c'est un peu méta, ils aiment bien ce sujet-là. Et du coup, j'ai commencé explicitement à nourrir ma pratique d'EducPop et les outils d'EducPop. Et ensuite, ça a été sur le tas, beaucoup en faisant, beaucoup en essayant, en faisant un premier arpentage, en faisant un premier atelier, en commençant à bosser sur mes premiers stages et en expérimentant, quoi. Et toi, Valou, c'était comment? C'était où?
Moi, je pense mon tout début, c'est quand j'avais 18 ans et que j'ai fait mes premiers pas en tant qu'animatrice jeunesse dans les centres de loisirs. Donc, c'est la première fois que je me retrouvais en charge d'un groupe. Ce groupe avait entre 6 et 8 ans, mais c'était quand même un groupe. Et il fallait en prendre soin et il fallait penser des animations, des déroulés, le début de l'animation, la fin de l'animation. Enfin, comment tu démarres, comment tu fais aussi ce qu'on appelle un retour au calme dans l'animation jeunesse, avant d'aller prendre le goûter, etc. Donc ça a été la première fois que je me suis retrouvée dans cette posture-là, en responsabilité quand même, et devoir porter tout un temps. Et puis ça s'est renforcé par ma formation BAFA que j'ai fini avec les CMEA, une grosse asso d'éduc-pop nationale, très engagée et avec toujours une lecture assez politique et assez émancipatrice de l'éducation populaire. Donc ça a été vraiment ça m'a permis de mettre de la conscience aussi politique sur ce que je faisais assez bêtement, comme tout le monde dans l'animation, quoi. Avec les CMEA et les copains que j'ai rencontrés là-bas, on a créé un réseau, le réseau Second Souffle, à partir de 2015-2016, pour partager nos pratiques éducatives, pédagogiques et même philosophiques autour de l'éducation populaire. Donc ça permettait deux fois par an de se faire des petites sessions de copains, se montrer des déroulés, se montrer des animations et voir ce que ça permet, ce que ça permet pas. Et puis après, c'est plus comme toi, apprendre sur le tas, mais plus dans toutes mes expériences bénévoles, dans le festival étudiant, le Carnaval solidaire à l'INSA, un gros festoche d'étudiants politisés. Et du coup, dans ce cadre-là, on essayait de politiser les autres de toutes les manières possibles, dont des ateliers d'éducation populaire sur le rapport à l'autorité, au savoir, voilà. Donc ça a été un peu toute cette formation sur le tas, puis ça continue encore. L'année dernière, j'ai commencé à me former au Théâtre Forum. On se forme toutes les deux au Théâtre Playback. Enfin voilà, on est en tout cas en recherche continue de nouveaux outils qui... on le fait pour nous parce qu'on adore ça, puis ça irrigue aussi notre pratique d'animation.
Ouais, complètement. Puis c'est infini. J'ai l'impression que c'est le cas pour n'importe quel métier, et notamment pour l'éducation populaire ou l'apprentissage... n'est jamais terminé. Et j'étais en train de penser en t'écoutant que moi, d'habitude, sur n'importe quel sujet, j'aime beaucoup me former en lisant de la théorie, et que sur l'éducation populaire, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a beaucoup de catalogues ou de manuels d'outils, mais pas beaucoup de textes. En tout cas, j'ai pas beaucoup, c'est sûr ça existe, mais moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup trouvé de textes théoriques. Et du coup, contrairement à plein d'autres sujets, j'ai dû passer par la pratique pour apprendre, et que c'est, je me rends compte maintenant avec du recul que c'est hyper caractéristique de l'éducation populaire de devoir faire, d'apprendre en faisant, quoi. Mm. Et qu'à la base, je savais pas, j'ai été obligée de faire comme ça, et qu'en fait c'est significatif, quoi.
Ouais, carrément. Et du coup, d'apprendre en faisant, il y a plein de petites finesses voilà, que maintenant on a en tête, alors que le bouquin, ça te donne tout de suite la big picture, mais ça t'aide pas parfois à voir tous les petits trucs auxquels il faut penser. Commencer un atelier avec déjà du contact physique, soit ça a un sens par rapport à la suite de ce que tu veux faire, soit vraiment on fait pas ça parce que pour les gens c'est un peu trop too much. Ouais, carrément. C'est vrai, et tu dis il y en a peut-être, mais en fait il n'y a pas beaucoup de production théorique sur l'éduc-pop, aussi comme mouvement. J'ai entendu dire qu'il y aurait un livre qui va sortir en 2025 sur l'histoire de l'éducation populaire en France, mais on m'a déjà dit ça trois fois, et j'ai hâte.
J'attends toujours.
Clairement, il y a quelques bribes d'articles universitaires par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment encore notre bible de l'éducation populaire.
Ok. Et en attendant cette bible, on va continuer à vous en parler. On n'a pas du tout fini d'explorer c'est quoi animer, et du coup... on va en rester là pour cet épisode, et le prochain, on va continuer cette exploration en se posant notamment la question de c'est quoi se situer et pourquoi c'est important. Est-ce qu'on est de la team de on prépare beaucoup ou on prépare pas? C'est quoi un déroulé? Et questionner un petit peu, mais en fait, qu'est-ce que nous on aime ou qu'est-ce qui nous gêne dans l'animation?
Carrément. Et donc pour finir cet épisode, on vous parle des prochaines dates de CEP. Les prochaines dates, c'est d'abord un stage même pas mal, Juliette, c'est, C'est quoi ce stage Même Pas Mal ?
Oui, un stage Même Pas Mal, c'est un stage d'éducation populaire féministe pour hommes, où le but c'est de faire une sorte de mise à niveau en émotions, puisque le patriarcat prive les hommes de leurs émotions et de leurs ressentis, et du coup l'idée c'est de se reconnecter à ça pour pouvoir changer dans le sens d'une société plus féministe. Ça a lieu du 22 au 24 février à Bouvières, en Drôme, et il reste encore 4 places, donc n'hésitez pas à vous inscrire.
Messieurs, on vous attend.
Il y a aussi un arpentage prévu le 6 mars de 12h30 à 14h à la librairie Notre Temps à Valence. On y lira la stratégie du choc sur la montée d'un capitalisme du désastre de Naomi Klein.
Et voilà, parce que ça fait très fort écho à l'actualité. Mmh. Un autre moment d'actualité, c'est 2 jours plus tard, le 8 mars, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Seb sera présent alors, le matin sur une table ronde de femmes élues en politique. Et nous, on fera une petite introduction sur en quoi l'éducation populaire peut soutenir l'engagement politique des femmes.
Trop bien.
Et l'après-midi, on va animer un atelier qui mêlera éducation populaire et féminisme. Donc retrouvez-nous à Valence.
Ensuite, fin mars, du 22 au 23 mars, toujours à Bouvières en Drôme, il y aura un stage Même Pas Peur, donc un stage sur les peurs, avec une thématique particulière cette fois, puisqu'il sera en lien avec l'actualité. Et pour la première fois aussi, il sera en mixité. Donc tout le monde est le bienvenu.
Inscrivez-vous vite. Et enfin, je crois qu'on fait partie de la programmation du Super Festival Féministe qui aura lieu le 28-29 mars.
Tout à fait, le 29.
29-30 ?
Le 29 et un peu le 30, oui.
Ok.
Et du coup, on animera quelque chose, on ne sait pas encore quoi, mais on animera probablement un arpentage au festival Paillettes et Point Levé.
Donc rendez-vous le 29 mars à la MPT du Petit Charon. Merci à vous et on se retrouve le mois prochain pour continuer et terminer cette discussion sur l'animation en éducation populaire. Et merci à vous.
C'était Juliette et Valou dans l'émission EducPop. EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.